Rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous, bienvenue au Rendez-vous culture des bibliothèques, l'émission dédiée aux passionnés de lecture, de films, de musique et de jeux. Aujourd'hui, nous allons vous présenter nos derniers coups de cœur et vous livrer notre avis sur des œuvres qui ont beaucoup fait parler d'elles cette année. Côté lecture, du dépaysement et un retour dans le passé avec deux romans, Le territoire perdu de Cali Fajardo-Hanstein et Absolution d'Alice McDermott, de la dystopie avec le dernier et nouveau tome de la saga préférée de toute une génération de lecteurs, Hunger Games, Levé de soleil sur la moisson de Suzanne Collins, une belle découverte avec le premier roman d'Ambre Chalumeau, Les Vivants. Nous poursuivrons avec un bijou de polar matiné d'humour noir, Des femmes qui tombent de Pierre Desproges. Et puis, comme nous sommes en plein cœur du Festival de Cannes, nous allons revenir sur deux films qui ont marqué l'année 2024, Gladiator 2 de Ridley Scott et L'amour ouf de Gilles Lelouch. Et enfin, en préambule au prochain festival Arc en jeu, ainsi qu'à l'imminente ouverture de notre ludothèque, nous vous recommanderons un jeu de société, Flowers, bien en accord avec ce joli mois de mai. Pour commencer, Amy nous propose de nous envoler pour le Colorado.
Alors, nous sommes à Denver, Colorado, en 1933. Dans une époque qui est plutôt marquée par les difficultés, une jeune âme se démarque par sa lumière singulière. Alors, il s'agit de Luz López, affectueusement surnommée la Petite Lumière, qui est une adolescente de 17 ans dont les racines plongent profondément dans l'histoire des peuples autochtones d'Amérique. Sa survie au quotidien repose sur un don ancestral et mystérieux. Elle peut lire en effet les feuilles de thé. Mais cette capacité va bien au-delà de la simple divination. Elle est accompagnée de visions puissantes et immersives. Ces trans la transportent hors du temps et de l'espace, directement auprès de ses ancêtres, au cœur d'un territoire qu'on dit perdu, un lieu imprégné de mémoire et d'esprits anciens. Alors Luz n'est pas qu'une simple spectatrice de ces voyages intemporels. Elle a en effet reçu une mission essentielle, un fardeau sacré qui façonne son existence, transmettre l'histoire de ses ancêtres, les récits oubliés, les traditions et la sagesse d'un peuple dont l'écho résonne encore à travers elle. Et aussi, à travers ses lectures et ses visions, Luz est le pont vivant entre le passé et le présent, gardienne d'une mémoire précieuse dans un monde en mutation. L'auteur nous plonge dans une vision radicalement différente de l'histoire de l'Ouest américain, une vision débarrassée des mythes hollywoodiens. Alors ce récit ne fait pas du tout l'impasse sur les réalités brutales de cette époque, donc les difficultés omniprésentes, les spoliations de terres subies par les populations autochtones, la ségrégation raciale systémique et le combat acharné des femmes pour leur place et leur dignité. Ces aspects sont solidement étayés par des faits historiques, donnant au roman une profondeur et une authenticité remarquables, et d'autant plus que l'auteur Cali Fajardo-Hanstein a même expliqué que c'était inspiré également d'une histoire vraie qui s'est passée dans sa propre famille, puisque justement, ça a été aussi par l'histoire de son aïeul. Et donc l'auteur vraiment rend un vibrant hommage et met en lumière tous ceux que l'histoire officielle a trop souvent relégués au second plan, les populations autochtones, les Mexicains, les immigrés venus d'Europe ou d'Asie qui étaient venus travailler dans les mines et sur les chemins de fer et qui étaient vraiment des forces vives sans lesquelles l'Ouest n'aurait pu se construire. Et donc, Luz, personnage central, incarne ici la mémoire du passé, le lien avec ses ancêtres, portant le poids et la richesse de cette histoire, mais aussi de sa famille, donc qui l'accompagne dans ce périple, et qui n'est autre, comme je vous disais, donc, que l'aïeul de l'autrice elle-même. Donc j'ai particulièrement apprécié la structure narrative où chaque chapitre offre la voix singulière d'un membre de cette famille, et nous livre ses joies, ses peines, son histoire personnelle et ses combats, enrichissant ainsi considérablement le tableau d'ensemble.
Merci, Amy. Excuse-moi, j'avais envie de rebondir parce que ça me donne envie de lire ce livre. Et quand je suis allée à la Nouvelle-Orléans, j'ai eu la chance ou l'expérience de me faire lire l'avenir à travers les feuilles de thé. On pouvait choisir les lignes de la main. Et comme je bois beaucoup de thé, j'ai choisi de me faire lire l'avenir à travers les feuilles de thé. Et j'aurais bien aimé, je pense, tomber sur Luz parce que malheureusement, la diseuse de bonne aventure sur laquelle je suis tombée... était loin du compte à mon avis, mais du coup ça m'a fait quoi ça du coup ça attise ma curiosité, voilà. J'avais
Elle t'a prédit que t'allais faire pipi.
Elle m'a prédit tout un tas de banalités et elle avait vraiment envie que je déménage. Et je lui ai dit, mais en fait non, je vais pas déménager. Est-ce que vous parlez de quelqu'un qui va emménager, parce que bon, des fois les termes en anglais,
oui, move in, move out, voilà.
Machin. Et puis, du coup, elle m'a dit, non, non, vous allez déménager. Et j'étais genre, non. Et bon, bah, ça fait presque 4 ans et j'ai toujours pas déménagé. En plus, elle m'a dit, vous allez vous rapprocher de votre mère. Et là, je me suis dit, ah là là, ma mère, elle est au cimetière, mon Dieu, c'est pas une bonne nouvelle. Elle savait plus quoi faire, la pauvre. Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir une loose sur mon chemin à ce moment-là. Non. C'était une petite aparté, mais...
Mais intéressant. Tout à fait. Alors moi, je vais vous parler d'un roman américain, d'Alice McDermott, qui avait eu le prix Femina étranger pour son roman La 9e heure. Là, son dernier roman, c'est Absolution. Elle nous parle des femmes d'expatriés, des épouses de militaires et de diplomates pendant la guerre du Vietnam, au moment où la France est encore en place et aux prémices de l'engagement de l'Amérique au Vietnam. On va suivre Patricia, la narratrice américaine d'origine irlandaise comme l'auteur elle-même, dès son arrivée à Saïgon en 1963. Elle fait la connaissance de Charlène, qui l'impressionne par son aisance, son impétuosité, son caractère bien trempé. Auprès d'elle, Patricia va découvrir une autre facette du Vietnam. Charlène organise des garden parties, elle fourmille d'idées, entraînant Patricia dans des œuvres de bienfaisance. Ensemble, elles vont sillonner Saïgon pour collecter des fonds. Et avec l'argent récolté, offrir des jouets aux enfants des hôpitaux victimes des atrocités de la guerre, brûlés au napalm ou atteints de la lèpre. Le roman souligne le décalage entre ces femmes qui mènent une vie oisive de mondanité, servies par une armée de domestiques locaux, et dans un contexte de guerre qu'elles perçoivent si peu, coupées du monde et de sa réalité, par des maris qui les cantonnaient à la sphère domestique. Pour raconter ces aventures, la narratrice revient des années en arrière, presque 60 ans. À l'âge de 83 ans, pour être précis, donc de mémoire et avec les aléas des souvenirs. Ce récit prend la forme d'une longue confession adressée à la fille de Charlène, qu'elle a connue enfant à Saïgon. Cette narration a l'avantage d'apporter des regards croisés sur leur réalité d'enfant et d'adulte et crée de manière subtile des portraits de femmes remis dans leur contexte. Et c'est d'autant plus intéressant que ce recul l'amène à s'interroger sur ces années, sur leurs actions. Elle questionne la notion de remords et de quête d'absolution. Elle constate que sous couvert de faire le bien, on n'est pas à l'abri de mauvaises conséquences. Car elle a pu observer que Charlène s'accommodait à sa façon des lois qui régissent le pays, n'hésitant pas à trafiquer au marché noir, notamment avec l'adoption des bébés orphelins. Elle pose ainsi la question de la charité. Est-ce qu'elle relève de l'altruisme ou d'une manifestation d'égoïsme, la volonté de récupérer une bonne conscience? À toutes ces réflexions, elle ajoute une dimension intime, exprimant la douleur de la difficulté à devenir mère, tout en décortiquant les liens du couple et les infimes détails qui composent nos vies. Alice McDermott excelle dans l'évocation des sentiments et les descriptions. Elle exprime remarquablement la complexité de cette société en voie de disparition et nous offre un voyage dépaysant en Asie du Sud-Est. C'est un roman tout en délicatesse, à l'écriture classique mais fine et précise, qui emprunte d'une douceur exquise et qui lui donne un charme fou.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Alors, on va s'intéresser tout de suite au dernier film de Ridley Scott, Gladiateur 2, Le Retour, Chant du Cygne ou pas. Bon, alors, je ne vous présente plus Ridley Scott, hein, 87 ans au compteur, hein, tout de même, hein, donc bon pied, bon œil, réalisateur émérite de quelques opus de la saga Alien, de Kingdom of Heaven, du dernier duel, d'un Napoléon que je n'ai pas vu, et du premier Gladiateur, donc qui date quand même de Gladiator, plus exactement, qui date de 2000. Et qui est encore dans toutes les mémoires. Donc c'était un spectacle assez intense qui voyait le héros Maximus, général romain victorieux des Germains, possible successeur de l'empereur Marc Aurèle, donc qui est réduit à néant, laissé pour mort et qui va devenir gladiateur, retrouver son honneur et se venger de Commode, le fils indigne et dégénéré de Marc Aurèle. Donc à l'époque, Ridley Scott a réalisé l'impossible, c'est-à-dire réactiver le péplum, un genre cinématographique qui était complètement moribond et qui avait connu son heure de gloire dans les années 60. Alors pour les plus jeunes, hein, le péplum, c'était tout un spectacle, tout un monde. En général, ça se déroule dans une antiquité plus ou moins fantasmée. On suit les aventures de héros bodybuildés qui dragouillent plus ou moins des jeunes vestales, toujours ostensiblement dévêtues. On assiste à des batailles épiques, des complots meurtriers ourdis par des traîtres qu'on adore détester. Et c'est souvent le prétexte à mettre en scène des bacchanales orchestrées par des empereurs qui sont toujours libidineux et complètement fous. Donc tout ça sans le souffre. Alors les titres des péplums, hein, souvent dans les années 60, c'était déjà tout un poème. Je vous en cite quelques-uns. Hercule à la conquête de l'Atlantide, Hercule contre les vampires, ça j'invente rien, c'est un film de Mario Bava, extraordinaire. Machiste dans les mines du roi Salomon, La terreur des gladiateurs, La reine des Amazones, Carthage en flammes, Le géant de Thessalie, Les vierges de Rome, enfin je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc à la fin des années 60, c'est un genre qui est complètement tombé en désuétude et qui va se ringardiser et dont la chute va être vite précipitée.
Et d'ailleurs, ce qui est, je me permets une aparté, c'est Peplum, justement, la série Hercule et tout ça. Souvent, le personnage principal était joué par Steve Reeves.
Exactement.
Qui était le premier grand bodybuilder à la mode.
Tout à
fait. Et c'est vrai qu'il avait des lignes pour les critères des compétitions assez magistrales pour l'époque. Et du coup, il a fait toute une série où, en fait, c'était simplement lever le gros bloc de pierre en carton-pâte. Voilà. Et pour en gloire française, il y a beaucoup de péplum dans lequel on voit Serge Gainsbourg.
Oui, il y en a un notamment qui est assez connu, dont le titre m'échappe, mais c'est assez drôle, il joue le rôle du méchant.
Et sinon, comme autre péplum, moi je suis plus fan de Rat Lukum et donc de 2h moins le quart avant Jésus-Christ.
Je vais en parler dans un instant.
Ah bah je reviendrai après.
J'y fais allusion. Oui, Steve Reeves, c'est extraordinaire. Donc c'était vraiment le modèle, ça a été le modèle de tous les personnages qui ont joué des films d'action comme Schwarzenegger et Stallone. Et donc, il est mort en 2000, je crois, Steve Reeves. Et il y a Schwarzenegger qui lui a rendu un bel hommage en disant que, de toute façon, toute sa carrière, pour lui, c'était le truc ultime. Ce qu'il voulait devenir, c'était Steve Reeves, ce qu'il a réussi. Alors, Gladiator 2. Donc, en gros, ça ressemble à s'y méprendre à Gladiator. Bon, en fait, sauf que c'est le 2. En gros, Lucius, je vous le fais court, qui est le fils de Maximus et le neveu de Commode, il va connaître le même sort que son père. Donc, il est défait par Pedro Pascal. Très bon d'ailleurs, il a pour le coup dans le rôle du général Acassus, lors d'une bataille encore dantesque, je passe les détails. Et on va le retrouver lui aussi comme par hasard en gladiateur, vengeur, au service d'un maître habile dans l'art de la traîtrise, du complot et de la diplomatie. Alors là, pour le coup, c'est Denzel Washington, bon pourquoi pas, alias Macrinus, très bon. L'Empire, quant à lui, est dirigé par deux tac-tac-tac complètement sadiques, c'est deux jumeaux roux, Geta et Caracalla, qui ont réellement existé. Même si je crois, si ma mémoire est bonne, ils n'ont pas gouverné ensemble. Alors, que dire de ce film ? Alors, bon, les historiens, évidemment, s'arrachent les cheveux, ils deviennent fous sur tous les anachronismes de ce film, et Dieu sait qu'il y en a. Alors, il y a notamment tout cet épisode du pouce renversé qu'on voit systématiquement dans tous les péplums. Bon, ça n'a jamais existé, hein, c'est-à-dire qu'on renverse le pouce pour faire exécuter le gladiateur, etc. Bon, ça n'a existé que dans l'imagination d'un peintre français, pour le coup, Jean-Léon Gérôme, dans un célèbre tableau, dont d'ailleurs Ridley Scott s'était inspiré pour Gladiator, et qui s'appelle Pochile Vercio, si je ne me trompe pas, un tableau de 1872, dans lequel on voit... Alors ça, ce tableau, il est exposé à Phoenix, au musée de Phoenix en Arizona, donc il faut quand même faire du chemin pour aller voir, mais enfin bon, on peut le retrouver sur Internet, et on voit effectivement la foule qui renverse le pouce pour mettre à mort un gladiateur. Alors là, dans le film, on voit des gladiateurs. Alors, ils se battent plus contre des tigres comme dans le premier, mais contre des babouins. Bon, pourquoi pas. Ils sont même dévorés par des requins dans le Colisée. Bon, il est vrai qu'il existait des batailles nautiques dans le Colisée. Ça, c'est historiquement avéré. On voit un gladiateur chevaucher un rhinocéros. Bon, et on voit même par un moment des enfants jouer au football. Bon, on va dire pourquoi pas. Alors là, pour le coup, comme dirait Michel Serrault dans 2h moins le quart avant Jésus-Christ, hein, de Jean-Yann. Qu'est-ce que c'est que ce cirque dans le cirque, en gros, c'est ça.
Qu'est-ce que c'est que ce cirque dans le cirque.
C'est un peu
de
ça.
De la ciguë, avec un peu de sucre.
Voilà, donc on est complètement dans le gros délire hollywoodien. Bon, alors, ça fonctionne, hein, globalement. Moi, ça m'a bien plu, j'ai passé un bon moment. Les décors, les batailles sont à la hauteur, je dirais. Globalement, bon, il y a beaucoup de scènes qui ont été évacuées, qui sont un petit peu ratées, je trouve. La découverte du tombeau de Maximus, notamment dans la crypte du Colisée, ça aurait pu être une scène absolument fantastique à la Conan le Barbare. Bon, c'est complètement... Ça tombe à plat. Mais globalement, on passe un bon moment, même si le film est quand même fort décousu, à mon sens. Voilà ce qu'on pouvait dire. En tout cas, ce que je pouvais dire à propos de Gladiator 2.
Moi, j'ai bien aimé qu'il y ait vraiment une vraie suite en termes de storytelling sur les personnages et tout ça. Au début, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Enfin, moi, j'essaie de ne pas me faire spoiler avant de ne pas regarder le synopsis ou quoi. Et du coup, j'étais contente de retrouver aussi certains acteurs de 1.
Oui.
Et puis,
oui, oui.
Voilà. Je trouve même la bande originale, elle est assez...
Elle n'est pas meilleure peut-être que la toute première, mais tout du moins, ouais. On s'en rapproche.
Bon, c'est vrai que, de toute façon, les Américains, il faut toujours systématiquement qu'il y ait toujours une musique d'accompagnement. Ils ne peuvent pas se contenter de silence. Il y a toujours une musique sirupeuse qui circule. Bon, voilà, c'est des thèmes. Voilà, il est triste, il est joyeux, c'est la scène de bataille, etc. Mais ça, bon, c'est presque des trucs... c'est immanquable, quoi. Le réalisateur est obligé de faire avec. C'est quasiment un cahier des charges, quoi. Donc, il n'a pas trop le choix.
Merci beaucoup, Willy. Alors moi, je vais revenir plus tard et en France avec un nouveau roman, Les Vivants, d'Ambre Chalumeau. Ambre Chalumeau, vous la connaissez peut-être, elle officie comme chroniqueuse littéraire à l'émission Quotidien sur TMC depuis 2020. Elle nous raconte ici l'histoire de trois jeunes adultes, Diane, Cora et Simon, amis depuis l'enfance, qui partent chaque été en vacances ensemble. Le récit commence à ce moment charnière de leur vie où ils viennent d'obtenir leur bac et ils vont entamer leurs études. Mais un drame surgit, Simon attrape un mystérieux virus et il tombe dans le coma. Cora et Diane vont voir leur monde s'effondrer. Ambre Chalumeau fait le récit des lendemains où la vie a vacillé, des répercussions sur les proches qu'on va suivre le temps d'une année, par petites touches, avec une alternance de points de vue, avec toujours en contrepoint Simon qui brille par son absence. Elle réussit à dresser des portraits fins avec une justesse touchante dans l'évocation des fêlures des personnages, à la fois simples et complexes, avec une bonne dose de réalisme. Ce drame marquera la fin de leur insouciance et il les pousse à se poser des questions, à relativiser. Il les aide à comprendre qui ils sont vraiment, renforçant leur affirmation de soi. Ce roman aborde avec intelligence le passage à l'âge adulte, où l'on doit affronter beaucoup de changements, ouvrir de nouvelles pages, et il révèle un regard pertinent sur les injonctions à la réussite de la société et des parents, la pression des classes prépa. Ambre Chalumeau manie bien les comparaisons issues de la pop culture qui font sourire, elle a le sens de la formule qui fait mouche, et elle révèle un talent d'écriture décontracté, alerte, avec un ton enjoué, une légèreté qui évacue tout pathos et nous touche quand même. C'est une lecture très agréable, car tout en fluidité et grâce, avec beaucoup de touches d'humour, un humour souvent pince sans rire. En somme, c'est stylé et bien construit. Elle nous parle avec pertinence et élégance de l'amitié, la famille, la féminité, de la force des liens qui nous unissent et permettent de grandir, et de l'acceptation, du deuil et de notre capacité à retrouver de l'espoir. Ces personnages continuent à poursuivre leur vie, car la vie continue malgré tout. Dans ce roman, tout ramène à la vie, au simple plaisir de vivre et d'apprécier la vie, et c'est beau. Et avant de parler des femmes qui tombent, on va écouter des gens qui dansent. Je vous propose d'écouter un tout jeune homme de 24 ans, à la voix envoûtante et puissante, qui va bientôt percer dans tous les festivals cet été, Sam Sauvage. Alors j'aime toutes ces chansons, le choix a été rude pour notre émission, mais j'ai finalement opté pour celle-ci, Des gens qui dansent.
Les gens pressés dans le métro, qui se bousculent dans les rames. Les gens qui fument au bistrot, aux fumées aériennes, dont se plaignent les vieilles dames. Y'a les gens qui crient, tout le temps, ceux qui sourient, de temps en temps. Et y'a les gens qui dansent, partout, et n'importe comment. J'adore. J'adore. Les gens qui s'aiment, puis qui s'aiment plus. Les gens qui doutent, et ceux qui redoutent. Les gens qui se perdent, ou qui savent plus. Des gens qui s'emmerdent, qui se traînent le cul. Y'a les gens qui se taisent, qui n'ont pas les mots. Les gens qui pèsent, ce qu'on entend à la radio. Et y'a les gens qui dansent, partout, et n'importe quand. N'importe n'importe quand. J'adore. Les gens qui se battent, et d'autres qui attendent, qui font passer le temps. Il y a les gens violents, il y a les gens dangereux, qui aiment les frissons, et puis il y a les peureux. Les gens qui s'écoutent, parler dans le vent, qui refont le monde, qui eux seront survivants. Et au milieu de tout ça, il y a les gens qui dansent, partout, en silence. J'adore.
Bonjour. Comment vous portez-vous ? Personnellement, je me porte bien. Je suis heureux. Mon cœur déborde d'amour et tenez-vous bien. Tenez-vous mieux, s'il vous plaît. Surtout les auditrices. Oh, je dis ça parce que vous savez, il y a des femmes qui tombent. Et qui tombent bizarrement, horriblement, tragiquement, mystérieusement. Ceci ne sort pas de mon chapeau, je n'en ai pas. Seulement une casquette qui m'a été choisie par le plus extraordinaire des êtres. C'est Pierre Desproges qui l'a raconté. En 1985, il a été réédité, bien sûr, aux éditions du Seuil. Ah oui, mesdames. Ah bah tiens, hein. Avec une première de couverture dessinée par Sampé sans les grineaux, il était parti voir les cueilleuses de champignons sur une nationale forestière. Eh bien, dans son livre, Pierre Desproges, qui avait coutume de pousser des longues plaintes déchirantes pudiquement cachées sous la morsure cinglante de son humour ravageur, raconte comment, à Sérillac, village près de Limoges... Attendez, il s'engourdit la porcelaine, le père Desproges. Sérillac, c'est dans le Morbihan, et près de Limoges, c'est Sérillac. Ah oui, mais il parle bien de Nontron, qu'il localise bien. Oui, mais c'est Desproges. Il dénonce la province bourdonnante d'indolence, d'impassibilité, même de médiocrité, comme l'ont fait Balzac, Flaubert avant lui, et pas seulement 14. D'ailleurs, ce court roman d'une centaine de pages est un concentré desprogien. En effet, on retrouve tout ce qu'il aime bousculer, ses thématiques favorites. Un fiel d'humour noir pour dissimuler un humanisme profond. Faire le tri, éloigner les cons, les pros de la bienveillance sortis de son sens et qui iraient à l'abattoir en se disant qu'ils vont aller voir des licornes à paillettes, les racistes, les misérabilistes qui jouissent de pleurer sur les handicapés, les antisémites et cette saloperie de Seconde Guerre mondiale qu'il n'a jamais comprise, qui le peut d'ailleurs. Pour vous faire une idée, vous inciter à la tétanisation crispée des zygomatiques, je vous propose deux extraits de son début de roman. Non, rassurez-vous, je ne vais pas vous spoiler et je vous ai choisi des passages bienveillants à la sauce des progènes, en ne faisant pas un cœur mignonné avec mes deux mains, mes deux beaux doigts d'honneur rigolards. Et Aurore va me détester vu la longueur des extraits que j'ai choisis. Chapitre 1. Adeline Serpillon appartenait à cette écrasante majorité des mortels qu'on assassine pratiquement pas. Elle n'avait pas d'argent, pas d'amour, pas de haine, pas d'attrait. Ses convictions politiques l'amenaient à conspuer doucement les augmentations du prix du gaz, rarement au-delà. Elle était moyenne avec intensité, plus commune qu'une fosse et d'une banalité de nougat en plein Montélimar. Hormis le chat gris mou qui dormait sur son lit, personne ne se retournait sur elle et encore moins en dessous. Depuis 40 ans, elle rapetissait à petits pas derrière le comptoir de bois ciré de sa mercerie qui sentait le miel et la sueur fraîche sans qu'on la prît jamais en flagrant délit de bonne ou de mauvaise humeur. à la Libération, elle avait un peu tressailli dans les bras durs d'un SS sans déroute qui remontait dos à dos et bandé et ferme encore. Il l'avait écartelée contre le grand chêne torturé qui glande toujours par-delà son jardin entre la Dordogne et la Haute-Vienne. Parfois, en suçant sa tisane au crépuscule, elle regardait cet arbre immuable et revoyait les yeux battus aux cils brûlés de son bourreau vaincu qui sentait la fumée froide, la poudre et la mort et l'alcool à cochon. On ne connut jamais d'autre liaison, pour la bonne raison qu'elle n'en eut point. Sa fadeur naturelle l'abritait puissamment de l'amour autant des mépris. Ainsi paraissait-il improbable à chacun qu'Aline Serpillon mourût un jour assassinée. Cependant, le 9 mai dernier, le chauffeur du car de Nontron, qui lui livrait couramment ses fils et boutons, la trouva par terre sous son présentoir à couture. Malgré le grand couteau à viande qui l'avait saigné à blanc, la perforant du plexus au nombril, qui restait là, planté là dans son ventre triste, elle conservait dans la mort cet air con des mercières mesurant l'élastique à culotte. Un extrait plus court du chapitre 2. Où un des personnages a un enfant. Oui, je fais vite.
Merci Yann, merci.
Ouais, ouais. Je t'en prie, je voulais pas que tu me vires quand même. L'enfant vint au monde au bout d'un an. Il était anormal, si l'on fait référence à l'employé de banque moyen en tant qu'étalon de base de la normalité. Dieu ne l'avait pas raté. Au sortir de sa mère, c'était un beau bébé, et puis la vie s'était mise à lui tomber sur la gueule avec une frénésie dévastatrice de bulldozer. À 2 ans, son beau regard bleu de poupon commun s'était alourdi de torpeur bovine. Cependant que son crâne s'allongeait en obus, son teint verdacé, ses membres se recroquevillaient en pied de vigne. Il avait la démarche austère des mouettes en mazouté et bramait sans relâche les mélopées caduques que lui soufflait le vent. Un sourire imbécile de joconde allumée lui barrait le groin en permanence, sauf à la fin des tétées laborieuses. Il suçait tout ce qui bouge. Où il arborait le faciès borné d'un aïeul de banquet hébété par une béarnaise au-dessus de ses forces. Dire qu'il répondait au nom de Christian serait exagéré, dans la mesure où il était sourd comme peu de peau, et, de toute façon, trop encotonné dans son cortex pour discerner un mot chrétien d'une corne de brume. Enfin, il avait peur des mouches et développé une allergie aux châtaigniers qui limitait ses sorties en laisse entre Limoges et Pieux-et-Rigueux, où cet abrisseau prospère à tout bout de champ. Bref, le bruit des amours de Jacques et Catherine Rouchon était confit. Dans ces extraits, évidemment, ce qui frappe à la gueule tel un bourre-pif en plein pé, c'est la morsure de l'humour ravageur. Mais ce qui devrait également retenir votre attention, c'est l'amour de la langue, du rythme, du lyrisme dont fait preuve l'auteur, ainsi que sa réflexion sur l'économie romanesque. Des envolées lyriques, oui, mais savamment pesées, qui ne démontrent rien d'autre que l'amour de la langue et non pas la volonté que, oui, l'auteur sait écrire. De même pour le rythme, longues et courtes phrases s'emboîtent parfaitement, comme le chant à tue-tête les sardines de la belle Illoise. La musique passe aussi par la mélodie des sonorités, dans lesquelles on retrouve la gourmandise truculente du sale gosse que semblait être des proches. Enfin l'intrigue. Des femmes meurent atrocement, sans répétition du même scénario. Mystère autour de ces assassinats. Y a-t-il vraiment une enquête? Quid du suspense? Digne d'un feuilleton policier de TFN ou de France 2? Comment écrire un air au roman aux airs de polar dans une bourgade semblable à ses habitants, totalement insipide? Lisez des proches et vous verrez un peu le résultat. Polar, portrait au vitriol, réflexion romanesque et stylistique. Oui, monsieur Desproges, je vous rends hommage malgré le fait que bouffer un tourteau en proclamant un partout en sortant de votre opération contre le cancer ne vous a pas permis de gagner le combat. Lisez Desproges, cela vous fera du bien et disséminera la grisaille de la sinistrosité ambiante qui ne fait que d'essayer de nous empêcher de rire de tout et de croquer la vie dans les folles prairies de l'insouciance.
Merci Yann. Bon, moi je vais vous parler d'un roman nettement moins drôle, hein. Quand même, il faut avouer. Hunger Games, je crois que je vous ai à peu près présenté tout ce qui existe déjà en littérature. On a même déjà parlé cinéma pour Hunger Games. Et là, il s'agit du dernier volet, écrit toujours par Suzanne Collins, qui s'intitule « Lever de soleil sur la moisson ». Alors, pour ceux qui connaissent déjà la saga, c'est-à-dire presque tout le monde, vous allez pouvoir y retrouver tout un tas de choses qui vont vous faire plaisir, en tout cas qui vont vous faire des gros clins d'œil et qui vont vous rappeler des souvenirs d'autres tomes ou d'autres livres. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'avoue que c'est possible de commencer par celui-ci, parce que ce qui pourrait apparaître comme des clins d'œil pour les amateurs vont juste passer inaperçus et ça ne va pas être des lourdeurs pour ceux qui ne connaissent pas encore l'univers. J'ai un petit bémol, j'en ai qu'un, mais j'ai quand même envie de le dire. Parce que comme il s'agit d'une autrice qui est quand même très connue, qui a fait succès avec cette saga, quand j'ai lu Lever de soleil sur la moisson, alors pour ceux qui connaissent, on va parler de Haymitch, qui est le coach de Katniss et Peeta dans la trilogie originelle. Donc là, il s'agit de l'adolescence de Haymitch, le moment où lui aussi a dû aller faire face à la reine durant les Hunger Games, puisque s'il a été coach, on sait très bien qu'il a fait face à la reine, et en même temps, on sait très bien aussi qu'il va s'en sortir. Je vous lis juste Link Lipit, moi aussi, t'as vu, je vais lire un extrait, Yann.
Vas-y, Aurore, vas-y.
Joyeux anniversaire, Haymitch. Moi, quand j'ai lu cette phrase, ça m'a tuée. Parce que du coup, je me dis, bah, on sait ce qui va se passer. Enfin, on connaît les grandes lignes. On sait qu'il va aller dans l'arène, on sait qu'il va, a priori, s'en sortir. Mais du coup, commencer par le joyeux anniversaire, j'avoue que ça m'a vraiment tuée. Donc j'ai trouvé cette Inkipit assez formidable pour le livre. Pour autant, le reste du chapitre 1, si j'étais éditeur, que je ne connaissais pas Suzanne Collins, que je ne connaissais pas l'ambiance des Hunger Games et l'univers qu'elle a créé, jamais je la publierais. Parce que ce chapitre 1, il est hyper lourd et il essaie même pas de nous faire découvrir avec subtilité l'ambiance des Hunger Games et de nous remettre gentiment dans le bain. Il y a vraiment des grosses lourdeurs. Juste le paragraphe suivant redit « Joyeux anniversaire ». Et entre parenthèses, on a « Sid, mon petit frère, me secoue par l'épaule ». Fermez la parenthèse. Jamais on ne présente un personnage entre parenthèses, en expliquant qui est ce personnage. Enfin, c'est vraiment très très lourd. Et dans le chapitre 1, on retrouve ça souvent. Mais une fois qu'on arrive à passer le cap et qu'en fait on est tellement content de retrouver cet univers qu'on a aimé, même s'il est assez affreux, et ben c'est un livre qui suit tous les codes, on va dire, du best-seller hollywoodien, parce qu'il y a énormément de romans, notamment dans les domaines de l'imaginaire américain, qui sont codifiés et qui sont basés aussi sur des méthodes, des techniques de scénario de film. On a déjà parlé de Joseph Campbell ou Christopher Vogler qui ont leurs archétypes de personnages, etc. Et on retrouve tout ça qui fonctionne très bien. Et du coup, ça nous lance vraiment dans le livre. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que la reine, finalement, elle commence qu'à la moitié du livre. Et pour autant, le livre fait un peu plus de 400 pages. Et au bout de 254 pages, on commence le chapitre où Haymitch se réveille et c'est la journée où il va rentrer dans l'arène. Il faut quand même passer 250 pages et pourtant, on ne s'ennuie pas une seule seconde à lire ce livre puisqu'on sait, quand on connaît l'univers, qu'il y a des étapes avant de rentrer dans l'arène. On sait qu'il va devoir se faire une beauté, qu'il va devoir aller passer à la télé. Enfin voilà, il y a ces étapes qui sont rituelles. Qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas si on n'a jamais lu l'univers ou si on n'a jamais vu, mais ça nous laisse tout un chemin jusqu'au pire. Et quand on quand on écrit des récits, on écrit souvent en trois actes. L'acte 1, on présente un peu ce qui se passe dans l'univers classique et ordinaire du héros ou de celui qui deviendra le héros. Dans l'acte 2, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Donc là, c'est là que Haymitch arriverait au Capitole et se passerait tout ce qui se passerait. Et l'acte 2, souvent, c'est le plus long, c'est celui qui est presque divisé en deux parties. Et la fin de l'acte 2, c'est vraiment... le milieu de l'acte 2, c'est vraiment là où les ennuis commencent. Et on est exactement au milieu de l'acte 2 quand Haymitch rentre dans l'arène. Et en vrai, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que On a déjà eu la trilogie, donc on a déjà passé les 74e Hunger Games, les 75e Hunger Games. Pour ceux qui ont pu voir ou lire la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, on a aussi du coup connu les 10e Hunger Games. Et là, on est sur les 50e Hunger Games, donc c'est quand même notre 4e année de Hunger Games à différentes époques. Et on ne s'ennuie pas, ils arrivent quand même toujours à renouveler les mauvaises farces qu'ils vont pouvoir faire aux participants dans l'arène. On arrive toujours à renouveler ce suspense, cette attente qu'on a de savoir comment les gens vont mourir, parce qu'en vrai, il ne s'agit que de ça, hein, ou comment les gens vont triompher. Et on a toujours envie de cette chose que Pita disait dans le premier livre, c'est-à-dire de ne pas se dénaturer et qu'il n'est pas leur âme. C'est ça qu'on essaie de savoir. Et c'est très bien filé, en tout cas, dans ce livre. Voilà. Hunger Games, le lever de soleil sur la moisson. Je vous le conseille parce que c'est un classique, c'est un peu comme Gladiator, ça suit tous les codes du genre. C'est pas le livre le plus formidable de l'année, mais en même temps, on est tellement happé par cet univers et par l'action qui s'y déroule que, en vrai, je l'ai lu en 3 jours et ça fait bien longtemps que je n'ai pas lu un livre de plus de 400 pages en 3 jours.
Voilà. Et la saga va continuer ou elle est bouclée là c'est...
En vrai, je ne sais pas parce que j'ai l'impression que Suzanne Collins, elle fait beaucoup de livres. Les livres qu'elle a fait dernièrement, c'est beaucoup des attentes du public. Donc peut-être qu'après celui-ci, on pourrait avoir un autre livre sur Effie. Peut-être pas, hein, j'en sais rien, mais elle en parle un petit peu dans celui-ci. Et on la découvre juste un tout petit peu. Donc on sait qui elle était dans la trilogie originelle. Mais voilà, peut-être qu'il y a d'autres personnages. Son nom m'échappe, mais il y a un autre personnage de la trilogie originale qu'on découvre dans le deuxième et troisième opus qui fait fureur, celui qui est super beau gosse et tout, là, j'ai oublié son nom, mais dont les fans ont envie d'avoir une histoire. Donc, à mon avis, oui, on va pouvoir en avoir d'autres.
En tout cas, j'ai vu quelques informations circuler par rapport à mon livre en anglais, effectivement, qui sort en premier. Donc oui, semble-t-il, ça...
Ben, ça fonctionne.
Après, c'est peut-être des fans, non, effectivement, mais... qui souhaitent aussi...
Et n'y a-t-il pas un effet fanservice, voilà, et qui fait qu'on s'en lasse ou que ça donne l'impression d'être cousu de fil blanc, du coup?
Alors, je suis bon public, hein, aussi, pour ce genre de roman. Mais je dirais que non, parce que justement, ils arrivent quand même toujours à renouveler, en tout cas jusque-là, à renouveler un peu les phases de suspense et d'action qui vont se passer. Bien sûr, ça reste un peu cadré, on va dire, quand on est dans l'arène. On sait qu'on va se battre, on sait qu'il y en a qui vont mourir, etc. Mais je n'ai pas trouvé. Et au contraire, d'un livre à l'autre, l'univers, il est en train de s'enrichir vraiment. Et il ne s'enrichit pas de par l'univers, il s'enrichit de par les personnages qui la peuplent, et ça change tout aussi. Le fait de pouvoir créer de l'empathie sur des personnages dans le livre précédent, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, on était sur le président Snow et sa jeunesse, et on avait même réussi à éprouver de l'empathie pour le président Snow. Donc il y a quand même quelque chose de très fort dans la gestion des personnages et dans le fait de les découvrir comme ça, un petit peu partiellement, de tome en tome, d'avoir des clins d'œil sur les uns et les autres, de tome en tome, et de pouvoir faire les liens qu'elles créent, en tout cas, et qu'elles tissent au fil des tomes. Donc du coup... Non, je trouve que c'est quand même bien fait là-dessus. Il y a un film qui sera prévu. Je ne sais pas encore pour quand, j'ai essayé de trouver l'info, mais je n'ai pas trouvé. Ils ont annoncé, genre le mois dernier, qui allait être l'acteur qui allait incarner Emmett. Donc voilà, c'est en cours, mais il faudra entendre encore un petit peu, je pense.
Parfait. Alors, on va changer complètement de domaine avec un jeu, Flowers. Un petit jeu de cartes familial, malin et amusant, créé par Paul-Henri Argiot. C'est l'auteur de Nimbus et du déjà génial Perfect Worlds. Il se joue à partir de 7 ans et il peut se jouer de 1 à 4 personnes. Les cartes sont toutes fleuries, avec un design simple et bucolique. Il repose sur un concept de placement de cartes numériques de couleurs. Le but du jeu est de créer un parterre de fleurs de différentes couleurs. Pour gagner le maximum de points, il faudra agencer au mieux chaque nouvelle carte piochée en regroupant astucieusement des valeurs numériques de 1 à 4 et des couleurs selon différentes contraintes. Des papillons viennent s'ajouter en bonus pour apporter un point supplémentaire. En résumé, il s'agit de réaliser le parterre de fleurs aussi parfait que possible. Mais attention aux mauvaises herbes. Les fleurs égarées, mal placées, peuvent être arrachées à votre joli jardin. Et les trous dans un parterre de fleurs, c'est moyen et ça fait perdre des points. C'est un jeu fluide, très simple à comprendre et accessible. Et bien qu'il puisse convenir au plus grand nombre, j'adore le fait qu'il ne repose pas uniquement sur le hasard, mais il se démarque grâce à sa dimension stratégique. Le fait de devoir combiner placement de valeur et regroupement par couleur impose de savoir anticiper son jeu et d'être très attentif à chacun de ses choix. Toute décision, autant pour la pioche que pour la pose, doit être réfléchie de façon à optimiser son jeu et ne pas laisser de trop belles opportunités aux autres joueurs. Les parties de Flowers sont rapides, tout au plus une quinzaine de minutes. Vous pourrez enchaîner avec une seconde. D'ailleurs, vous en aurez très envie, car il est particulièrement addictif.
Il n'est pas question de gagner, de laisser les autres gagner, en fait.
Bah non, on aime bien gagner quand même. On va finir avec le film de Gilles Lellouche, L'amour ouf.
Alors, là, on a L'amour ouf, le film qui te fait dire « Wesh, mais c'est quoi ce bail ?» Bon, d'accord, je vous explique et je m'arrête là au niveau du verlan. Présenté en compétition festival de Cannes 2024, ce film de Gilles Lellouche adapte le roman « L'amour ouf » de Neville Thompson, donc un roman en anglais. Et ancré dans le décor industriel du nord de la France des années 80, « L'amour ouf » raconte l'histoire passionnée de Jackie, incarnée par Mallory Vanek, donc adolescente, puis Adèle Exarchopoulos, et Clotaire, jouée par adolescent par Malik Frika, puis adulte par François Civil, deux jeunes gens follement épris l'un de l'autre. Alors Jackie est en deuil et soutenue par son père, alors elle aspire à l'indépendance et un futur meilleur, loin de son environnement. Par contre, Clotaire, lui, il est confronté aux défis économiques et sociaux du monde ouvrier en crise. Il dérive peu à peu, et le désespoir le conduit à de mauvaises décisions, l'entraînant vers la délinquance. Et c'est là où leurs destins s'entrelacent, dans cette période charnière, leur amour puissant semblant défier la gravité de leurs circonstances difficiles. Le film dépeint cette relation tumultueuse, explorant les hauts et les bas, causés par le mode de vie de Clotaire et les réactions de Jackie face à ses choix. C'est une histoire d'amour puissante, un peu folle, qui captive par l'énergie de ses personnages et la vivacité de leurs liens. Avec un casting incluant Benoît Boulevard, Alain Chabat et Elodie Bouchèze, entre autres, et une musique de John Bryan, le film revisite l'esthétique de West Side Story et dans le style de Robert Wise, utilisant des panneaux, fondus, plans de grue, plans subjectifs et contre-plongés. Alors j'ai un énorme coup de cœur pour la musique originale de John Bryan et les décors des années 80 de Jean-Philippe Moreau, qui rappellent des souvenirs, notamment les cabines téléphoniques. Vraiment, il y a plusieurs passages où les cabines téléphoniques vraiment dans le film jouent un rôle essentiel. Mais pas que cela, puisqu'il y a même un moment où ça rappelle des souvenirs. Alors, je ne sais pas, j'imagine que vous avez déjà fait ça, en écoutant la radio et en essayant de faire comme des sortes de playlists pour vos amis, pour voilà, les personnes que vous aimiez ou vous aimez. Et qu'effectivement, enfin, voilà, il y a tous ces petits rappels en fait, des années 80. Que,
tu veux dire à l'ancienne, quand
voilà,
on se précipitait sur la chaîne IFI pour essayer de mettre la cassette en route pour enregistrer ce...
Exactement.
Ok, je vois.
Enfin, ça rappelle plein de souvenirs qu'on avait en tout cas peut-être vite oubliés. Et donc en gros, c'est un film vraiment qui marque. C'est frais, un peu taré, surtout c'est vraiment excellemment bien fait. Donc à voir grave.
Merci Amy. Donc on arrive au terme de cette émission. Nous avons parlé de romans, de jeux, de films. Donc on va récapituler. Grâce à Yann, nous avons parlé des femmes qui tombent de Pierre de Proche. Grâce à Willy du film Gladiator 2 de Ridley Scott, Le Chant du Cygne. Grâce à Amy, Le Territoire perdu de Cali Fajardo-Anstin et donc du film L'amour ouf de Gilles Lellouche. Aurore nous a parlé de Lever de soleil sur la moisson, le dernier Hunger Games de Suzanne Collins. Pour ma part, je vous ai parlé d'Absolution d'Alice McDermott, des Vivants d'Ambre Chalumeau et du jeu Flowers. Samedi 17 mai à 14h30, la Maison de l'architecture des Hauts-de-France propose une visite guidée de la bibliothèque Saint-Corneille, l'occasion de découvrir les choix conceptuels qui ont façonné cet édifice entre conservation et innovation et d'interroger notre rapport à l'architecture d'aujourd'hui et de demain. Cette visite sera suivie d'une rencontre avec l'architecte Patrick Mauger. Samedi 24 mai, De 14h à 18h, venez librement, en solo ou en petit groupe, profiter d'un atelier de bibliothérapie autour des lectures orientées feel good dans le jardin de la bibliothèque Saint-Corneille. Samedi 24 mai également, de 14h30 à 16h30, les espaces Cyberbase vous proposent une conférence sur les fake news et la désinformation présentée par Camille Perrault. Samedi 7 et dimanche 8 juin aura lieu la 4e édition du festival Arc en Jeu. Venez passer un moment ludique, seul, entre amis ou en famille, pour jouer, découvrir des jeux de société, des plus classiques aux plus récents, pour tout niveau et tous les goûts. Et samedi 14 juin, nous aurons l'ouverture, enfin, de notre ludothèque à la bibliothèque Bélicard. Vous en saurez plus très vite sur notre site internet et les réseaux. Le 23 mai, à 18h, aura lieu notre prochain rendez-vous culture, qui change de nom et devient l'apéro culture, pour encore plus de convivialité. N'hésitez pas à venir, que vous ayez ou non des livres, des films ou des musiques à présenter. Venez échanger sur vos lectures et toutes découvertes culturelles.
Avec un mojito aussi ?
Peut-être un peu de bière ou de cidre, pour qui veut. Nous vous retrouvons le vendredi 20 juin pour notre prochaine émission qui vous apportera plein de nouvelles idées de lecture pour cet été. Un très bon week-end à tous.